Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Connie, bonjour.
Bonjour.
De Lynn.
Bonjour.
Et nous avons aussi Berit.
Bonjour.
Bonjour. Toutes les trois, vous êtes ici pour nous annoncer le prochain vernissage qui aura lieu le dimanche 6 octobre à The Residence. Donc, ce sera deux expositions, deux artistes qui exposeront. Donc, Berit Merebeu et Lynn Pock. Vous êtes invité pour présenter des travaux. Pour Berit, il s'agit d'œuvres sur papier, donc qui ont été effectuées sur dix ces dernières semaines. Et puis pour Lynn, ce seront des installations créées à Berlin, je pense. On va commencer aussi avec Connie, qui nous présentera de nouveau ce qu'est The Residence.
Voilà, bonjour. The Residence, c'est un programme que j'ai créé l'année dernière. Et on a deux façons de faire la résidence d'artistes. C'est une fois en été, c'est pour les artistes avec enfants. Il y a un artiste, du coup, qui réside avec un enfant pendant les grandes vacances. Et après, en automne, c'est un programme d'échange avec Berlin. Et c'est du coup une résidence croisée. Et c'est pour ça qu'on a deux artistes. Et j'envoie un artiste de la Drôme à Berlin, et je reçois un artiste berlinois à Die.
Ce lieu aussi est donc basé sur un échange avec Berlin, centré sur l'art contemporain et l'orientation féministe. C'est pour ça que souvent les résidences sont faites d'artistes femmes.
Oui, en fait, je préfère les femmes, mais j'exclus pas des hommes, parce que c'est pas le féminisme que je veux vivre, mais je préfère les femmes et féministes aussi pour le programme d'été, parce que ce sont surtout les artistes féminins qui s'occupent d'enfants, et du coup ils ont une besoin d'aide de continuer de travailler, et j'essaie de faire le mieux d'aider dans ça.
Merci Lynn pour cette intervention technique avec des gens qui travaillent à côté. On peut présenter Berit Merebeu. En quoi consiste son travail?
Woraus es besteht, wie deine Arbeit aussieht?
Ah, mon travail. Oui, moi j'ai travaillé pendant un mois dans son atelier chez Connie, et j'ai surtout travaillé avec des techniques très spéciales sur papier, du papier très différent, aussi du papier transparent, dont, comme l'exposition, le titre « Superposition ». Il s'agit de superposition de... j'ai fait la peinture avec l'huile. Il y a des photographies dedans et j'ai finalement réagi sur la place de Die, sur la nature, sur les couleurs, les montagnes. Et oui, c'est entre la peinture, dessin et photographie superposée.
D'aspect, c'est onirique ou comment c'est le constat de ce qu'on voit au premier coup d'œil?
Oui, c'est un peu comme... C'est des paysages imaginaires, oniriques, comme dans une rêve ou comme des petits moments de souvenirs.
Ouais. Avec une sorte d'immatérialité de ce qui est représenté?
Oui, c'est des fois ça devient l'abstraction, ouais. Si tu veux, si on peut dire ça, parce que... en fait, si je peux expliquer un peu, peut-être encore. C'est assez compliqué, son technique de Berit, et je viens d'écrire un petit texte dessus, du coup. parce que, en fait, elle, Il commence avec une photographie, mais cette photographie, ce n'est pas l'œuvre, c'est une esquisse, comme elle dit. Et elle imprime ses photographies avec une technique qu'elle a fait, elle, depuis voilà, 20 ans, sur du aluminium, sur des grandes plaques d'aluminium. Et après, sur l'aluminium, elle peut enlever beaucoup de cette photographie avec des sous-longs différents. Et après, elle ajoute de la peinture. Et après, elle reprend en photo. Et cette photo, elle se fait réimprimer et retransférer avec ce processus spécial qu'elle a inventé, ou sur de l'aluminium, ou pour ici, c'est sur papier. Du coup, elle a emmené déjà des choses un peu préparées. Et avec le paysage et les couleurs de Dubois, elle a fait une nouvelle intervention. Elle a mis des autres couches, elle a fait des combinaisons et elle a utilisé des choses différentes comme l'huile de lin ou du terpentine ou du lac pour aussi faire le papier transparent, plus transparent ou moins transparent. Du coup, il y a des couches qu'on voit un peu, en fait, une couche de derrière, on voit un peu mieux de fois, un peu moins, c'est loin de ce qu'elle pense que c'est intéressant pour l'image. Et du coup, il y a des images qui sont été d'un tout à fait autre contexte qui devient tout à coup peut-être une vue d'un hélicoptère de la montagne de Diwa. Mais voilà, c'est la source, elle est toute différente, mais c'est comme dans les rêves qu'on mélange des fois des paysages ou des choses.
On peut peut-être aussi nous donner une idée de la taille des œuvres que vous produisez. Est-ce que vous êtes sur du grand format ou du petit format?
Oui, d'origine, je travaille vraiment avec des très, très grands formats. Ça veut dire 2 mètres à 3 mètres. Et dans cette exposition aussi, avec le transport et tout ça, c'est plutôt une série de 8 œuvres, un peu plus aussi des autres choses, mais en œuvre, c'est environ 1,20 m à
3 mètres, je crois.
Oui, c'est une série de 3 mètres,
en total,
8 œuvres et oui, c'est
et après, ça. Oui, après, il y a un autre groupe.
Alors j'ai deux travaux. Une, c'est sur le paysage, la montagne, le ciel, les lumières. Et l'autre, c'est surtout sur les rêves. Et ça veut dire autour du portrait. Il y a 4 œuvres, c'est vers 2 mètres de travail.
Oui. À peu près.
Votre intervention en peinture sur vos photos sont dues à quelle motivation?
Finalement, c'est pour réagir sur l'espace où je suis. Et moi, j'ai fait finalement beaucoup de résidences. Aussi à Sydney, Australie, 4 fois et partout, 7 fois à 10. Et moi, j'ai remarqué vraiment d'être sur un autre lieu. Ça donne toujours des traits, des autres images. Par exemple, pour ça, c'est aussi des tableaux de lumière. En Australie, il y a une complètement autre lumière, très, très dure, très forte. Et les contrastes dans les œuvres étaient beaucoup plus forts aussi. Ici, avec la montagne et aussi dans l'automne, mes œuvres devenaient vraiment troublées un peu, comme avec la
brouillard,
tout ça. Et aussi la lumière de l'automne. Petit peu dedans, je crois, et c'est pas si fort contraste que, par exemple, en été en Australie où j'étais.
Connie, qu'est-ce qui vous a inspiré d'inviter Berit?
En fait, moi, je fais un échange avec Berlin. Et à Berlin, c'est Uwe Jonas qui fait le Lichtenberg Studio. C'est une résidence d'artiste à Lichtenberg. Berlin, Lichtenberg, c'est un quartier de Berlin. Et c'est Uwe qui me propose des artistes berlinois. Et moi, je propose des artistes de la Drôme, parce que voilà, c'est chacun qui connaît ces artistes-là sur place. Et du coup, j'ai choisi Berit à cause de sa proposition à Uwe.
Donc Berlin, où là s'est rendu Lenin pour proposer une installation qui a eu lieu à quel moment d'ailleurs ?
Alors pour l'instant, en fait, il n'y a pas eu d'installation là-bas. Je vais un peu décrire ce que... Donc moi, j'ai résidé pendant 3 semaines dans le quartier de Lichtenberg, qui est un quartier qui borde Berlin par l'est, qui est un quartier orienté nord-sud et qui fait à peu près 25 km de long. Et le lieu de résidence étant au sud de ce grand territoire. Et j'ai parcouru à vélo le coin pour découvrir, parce que l'idée, c'était aussi de faire quelque chose en lien avec ce quartier. C'est un quartier très intéressant de par son histoire. Il y a les bâtiments de la Stasi, il y a le zoo de Berlin-Est. Donc c'est anciennement des quartiers de RDA. Et c'est très contrasté entre des parties un peu anciennes et des parties qui ont été complètement construites dans les années 70 avec des grands ensembles de béton, d'habitat, c'est pas de l'habitat social, même si ça ressemble à ce qui pourrait être de l'habitat social chez nous, mais c'était de l'habitat socialiste, on va dire. Et donc je me suis promenée dans ce paysage contrasté, et ce qui m'a surpris, ce qui m'a parlé là-bas, en fait, c'était de retrouver partout, très très souvent, des aires de jeux pour enfants, plus ou moins belles, plus ou moins stimulantes, plus ou moins abandonnées, enfin, souvent pas tellement abandonnées que ça. Ça dépendait des horaires, parce qu'il y a des horaires où il y a des enfants, puis il y a des horaires où il n'y en a pas. Du coup, c'est un peu des endroits fantômes par moment. Et donc, j'ai fait des photos. J'ai commencé par faire des photos qui ne sont pas du tout des photos de photographe, c'est plutôt de la documentation pour moi, de garder une trace de ces différents lieux. J'ai marqué sur une carte les parcours pour voir où est-ce que j'étais passée. J'ai choisi certains parcs où je suis retournée, où je me suis assise, où j'ai dessiné, parce que la photographie, c'est un peu difficile maintenant, parce que les parents ne veulent pas que les enfants soient représentés. Voilà, donc le dessin, c'était plus simple. Et donc, j'ai quelques croquis. Et à la fin, j'ai réussi à surmonter un peu ma timidité. Et en fait, j'ai fait des petites performances dans quelques-uns de ces lieux que j'ai filmés et que je vais monter en vidéo. Voilà, qui seront aussi dans l'installation. Et en fait... Ici, ça devient une installation parce que je vais faire un objet inspiré de certains de ces parcs, de ces jeux d'enfants, qui ne sera pas accessible. On ne pourra pas monter dessus parce que ce n'est pas assez solide. Mais en tout cas, voilà, ce sera quelque chose en 3 dimensions. Parce que moi, je viens plutôt de la sculpture. Et cet objet me permettra d'y installer des photos, des petits bouts, des notes, des dessins, la vidéo et tout ça. Voilà, c'est de recréer un peu une ambiance de ce que j'ai pu voir là-bas, dans ce qui a attiré mon œil au milieu de ce quartier immense, où il y aurait plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais voilà.
Je suis tombée.
Il reste encore ces marques dans Berlin de cette différence qui a eu lieu pendant 30 ans.
Entre l'Est et l'Ouest,
oui.
Tu veux dire Oui, il y a des marques, mais elles s'effacent de plus en plus. Ça dépend des quartiers. Je pense que Lichtenberg est en fait la... Le nettoyage, entre guillemets, de Berlin a été fait du centre, les quartiers du centre, et puis ça s'étend comme ça vers l'extérieur. Lichtenberg est plus au bord, donc on va dire que c'est en plein dedans dans la transformation. Enfin, en partie, il y a des bouts de Lichtenberg qui sont aussi déjà très rénovés et tout ça. On sent qu'il y a des endroits où il n'y a encore pas de commerce, mais c'est voilà, on sent vraiment une transformation aussi de la population. Lichtenberg, c'est un quartier qui a aussi toujours eu, enfin, en fait, Lichtenberg, c'est un petit quartier et je crois dans les années 90, ils ont fait des regroupements de quartiers. Donc Lichtenberg comprend plusieurs anciens quartiers et qui ont aussi des caractéristiques différentes. Voilà, il y en a qui sont vraiment où on sent que dans les années 70, enfin avant les années 70, il y avait des champs et ils ont construit des grands ensembles. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, peut-être en comparaison à ce qui a pu être fait à la même époque en France, c'est que il y a énormément d'espaces verts. Il y a de l'espace dans l'ensemble. Il y a de l'espace. Il y a toujours des trottoirs avec des arbres, puis la rue, puis éventuellement même la piste cyclable. Donc, on peut circuler. Et ce qui fait que même ces grands ensembles qui sont moins hauts hein, souvent que chez nous, ils sont, on sent aussi l'influence du Bauhaus où il y a vraiment cette idée de faire, de créer un cœur au centre de ces bâtiments où il y a une vie sociale qui à l'époque de la RDA a été organisée par le parti. Où il y avait une maison sociale, enfin il y avait tout ce qu'il fallait, une bibliothèque, tout ça. Après c'était très endoctriné, mais... Et un peu à pensée unique pour avoir discuté avec certaines personnes là-bas. Mais en même temps, ça fonctionne, en fait, maintenant, de les voir d'une certaine façon, ça fonctionne, et notamment parce qu'il y a toute cette nature. Ce qui se passe maintenant, mais ce n'est pas tellement l'impression dans Lichtenberg, mais il y a d'autres quartiers comme Prenzlauer Berg et Mitte qui, maintenant, ont été gentrifiés énormément, où les appartes atteignent des prix hallucinants. Et du coup, l'Ouest est presque plus dans son côté originel. où on sent plus de diversité dans les populations. Parce que ce qui s'est beaucoup passé à Berlin, dans les quartiers de Berlin-Est, par la gentrification, en fait, il y a beaucoup de gens de la population de RDA qui n'ont plus pu accéder aux appartements, qui se font virer, ça devient maintenant des propriétés, en fait, des appartements de propriétaires. Et donc, il y a vraiment un gros changement de la population dans ces quartiers-là. Lichtenberg, je pense que ça arrive en partie, comme partout dans Berlin, cette gentrification, mais c'est plus lent.
Oui, il y a encore beaucoup des artistes ou des
et voilà, il y a aussi
maintenant qui se sont installés les dernières années. Et ouais. Ça, on voit déjà, voilà, c'est toujours un peu le début de la gentrification, malheureusement, que voilà, les artistes... Ils vont là où c'est accessible, où c'est pas cher et peut-être pas trop joli, mais après ils le font plus joli et c'est plus attractif pour les autres gens et du coup c'est de la gentrification.
Ouais. Je crois savoir que depuis les années 80, Berlin a toujours été un lieu pour les artistes, non ?
Ah, mais bon, ouais. Ben, en fait, Berlin c'était toujours un peu différent de tout le reste. Bon, pour le parti. L'Allemagne de l'Ouest, c'était loin du reste.
Et, c'est une île, en fait. C'est comme une île.
C'était une île. Imaginer. En fait, il fallait prendre l'avion pour y arriver. Ou, voilà,
ou une autoroute.
Une autoroute, mais une très mauvaise autoroute. C'était exprès ou mauvaise. Et aussi, il y a du difficulté pour la frontière, machin. Et du coup, c'était une île, mais il y avait beaucoup, beaucoup des artistes. Il y avait David Bowie, il y avait plein de gens en fait, connus qui sont été à Berlin. Parce que c'était, c'était différent, c'était rien à voir avec le reste d'Allemagne, de l'Ouest. Et pour l'Allemagne de l'Est, c'était un peu pareil quand même, parce que c'était la capitale, il y avait plus de culture, il y avait le palais de la République, c'était un grand truc, un bâtiment que malheureusement, ils ont détruit, c'est connard, mais franchement... aurait pu apprendre l'histoire, hein, mais on va plutôt reconstruire le château au lieu de garder quelque chose de...
Ça, c'est assez hallucinant c'est dans horrible, certains choix politiques qui sont sur cette place, dans ce lieu assez central près d'Alexanderplatz. Là, moi, j'ai connu encore le Palace des Républiques puisque j'ai vécu là-bas, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts à l'Est, justement. Il y a 20 ans, et il y avait encore ce Palace des Républiques qui, justement, aussi dans la façon dont il était conçu, était conçu comme un bâtiment avec une structure architecturale qui favorise la démocratie. Après, on sait ce qui a pu se passer, mais en tout cas, il y avait des intentions comme ça. Et en fait, maintenant, ce qu'ils ont fait, donc ils ont aplati ce truc, soi-disant parce qu'il y avait de l'amiante, et ils ont reconstruit à l'ancienne, un palais à la Guillaume II pour remettre un bâtiment qui ressemble aux autres. Ce qui est, on se dit, mais c'est complètement hallucinant. C'est du faux, en fait. C'est complètement du faux vieux. C'est comme les Chinois qui construisent des châteaux, le château de Versailles en Chine ou des trucs comme ça, quoi. C'est hallucinant.
Ouais, ou construire la pyramide du Louvre en pierre.
Voilà, c'est un peu... c'est une espèce d'aberration. Je ne sais pas ce qui leur a pris, franchement. Je sais pas.
Non.
Merit Murebeu, qu'en est-il de l'art contemporain en Norvège?
Wie ist die Kunstszene in Norwegen?
Ah oui, en Norvège... moi, je veux dire, dans les villes Oslo et Bergen, il y a vraiment l'art, mais c'est un art très constructiviste, très, très froid. Il n'y a pas vraiment la peinture, c'est très l'art intelligent ou ce qu'on trouve dans les galeries dans les villes en Norvège. Et ça m'étonne très souvent parce que on a eu Edvard Munch, par exemple, et qui était très émotionnel dans la peinture. Et il n'existe pas vraiment ça, là. Peut-être il y a quelques peintres dans la campagne que je connais pas, mais si on va dans les galeries, par exemple, là, Oslo, je vois vraiment... de là très froid et je ne comprends pas.
Et c'est une expression qui date de quand, ce mode d'art un peu structurel ou à concept?
Von wann ist das? Seit wann hast du den Eindruck, dass diese oder genau zeitlich?
Oui, moi je suis venue à Berlin il y a 30 ans pour étudier de l'art à l'université à Berlin. Et depuis ça, avant, ça n'a pas changé les dernières années, non, c'est pour moi toujours comme ça. Il y a un artiste assez connu, Jan-Christopher Jensen. Il est un petit peu, il est dans la peinture, mais lui, il était longtemps, je crois 20 ans, à New York pour faire la peinture. Il a appris là beaucoup.
La figuration, est-ce qu'elle est dans votre domaine également? La représentation humaine, vous la proposez aussi?
Figürlich arbeitest und
das. Ah oui, oui, oui. Je voudrais dire c'est moitié-moitié. C'est paysage et la figuration, ouais. Finalement, sur l'exposition, j'ai aussi un catalogue. Et c'est vraiment un catalogue moitié figuration, qui s'appelle portrait, et l'autre c'est paysage, landscapes. Yes.
Conille, ce sera donc à partir du dimanche 6 octobre à 17h, mais ces œuvres seront visibles pour combien de temps ensuite?
En fait, vu que le... le plus important, c'est le vernissage. On n'a pas une longue ouverture d'exposition. C'est juste une petite semaine jusqu'au 11 octobre. On peut voir l'expo sur rendez-vous. Et ça serait du coup appeler mon numéro portable, que c'est le 07-88-77-68-76. Pour être sûr que je suis sur place, mais en général, voilà. C'est pas du tout un problème de prendre rendez-vous. Mais vu que Berit, elle va retourner à Berlin, et Lynn, elle habite à Banff, c'est pas à côté non plus, c'est plutôt... c'est mieux de venir au vernissage, comme ça, on peut aussi voir les artistes, parler avec des artistes. Et... en plus, ça va être un événement assez chouette à la Divoise. On fait une repas partagé. Les enfants, ils sont bienvenus. Nous, on organise une buvette sur place. Alors, on a fait trois fois là et c'est très agréable en fait. Pour ce que j'ai eu de retour aussi, c'était positif. Du coup, alors, je conseille plutôt vernissage. Mais vous pouvez m'appeler si.
Le choix d'assembler le travail de Berit et de Lynn ont permis un échange dans l'installation ou dans une espèce de dialogue entre les œuvres?
Moi, en fait, c'est peut-être plutôt moi, comme commissaire d'expo, si on veut, mais c'est même pas ça. C'est juste que moi, j'ai pas de problème, c'est de faire un expo des artistes si c'est vraiment des travaux qui se parlent beaucoup. Mais j'ai l'impression que ce sont quand même deux positions bien différentes. Comme c'était aussi l'année dernière avec Anastasiewicz, qui a fait la peinture, et Jan Le Kroenek, qui était à Berlin mais habite ici. Je vois ça plutôt comme deux projets, une présentation de deux projets, mais dans une salle. Comme dans les musées où on a des fois plusieurs artistes. Mais là, voilà, c'est vraiment une salle. Et c'est... il y a... J'imagine, il y aurait des moments où les œuvres, ils se parlent. Mais je vois plutôt comme deux projets. Et c'est pour ça aussi que j'utilise ce drôle de mot double vernissage. Parce que je vois plutôt que ce sont deux choses différentes qui se sont passés à peu près au même temps, dans des endroits bien loin.
Lynn, je connais un peu plus ton travail. Les œuvres antérieures, celles qui utilisaient des fréquences, ces choses-là, d'ailleurs, qui portaient un nom, c'était lequel déjà ?
C'est des œuvres audio-tactiles. Ouais. Alors là, je ne suis pas partie dans cette direction parce que je ne fais pas que ça. Et parce qu'en fait, les œuvres audio-tactiles, c'est très très long à créer, et puis il faut des budgets. Et là, c'était... Moi, une autre partie de mon travail, c'est aussi de faire des choses in situ. Et in situ, c'est enfin, lié à un contexte particulier. Donc, un contexte, c'est un lieu, c'est un budget, c'est un temps. Voilà, et donc là, c'était Berlin, Lichtenberg, 3 semaines. Et donc, il n'y a pas d'audio tactile. Mais c'est aussi pour moi le plaisir de faire d'autres choses.
Bérite, votre séjour à Die vous a-t-il marqué ? Et est-ce que vous y reviendrez peut-être ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé d'être 4 semaines dans le vraiment superbe atelier de Conny à Die. Et je peux dire que c'est un cadeau pour moi de vraiment... travailler 4 semaines très intensives. J'ai commencé très tôt le matin et j'ai fini très tard le soir. Et j'ai adoré ça, surtout de travailler sur la campagne. Il y a quelquefois, je suis allée à Die, bien sûr, pour avoir un café aux places là, mais de travailler là, dans la campagne, c'était très intensif. Et J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup des œuvres. À Ballon, je n'arrive pas tellement à faire ça.
On va avoir un choix.
C'est bien. Eh bien, je rappelle donc que ça se passera à Chénos, hein, près de Chapia, donc à 1150 chemin du pont des Chênes, à Die. Donc il faut prendre la route de la déchetterie et suivre Chénos.
Oui, on va avoir des affiches à partir de la déchetterie et ça va être facile de nous trouver.
Je vous souhaite toutes les trois, donc Connie, Lynn et Bérite, une bonne soirée. Au revoir.
Merci. Merci.